Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur d'être là. Vous savez, du moins un certain nombre d'entre vous savent à quel point ce sujet me tient à cœur et à quel point je considère qu'il est important de parler de l'agisme, forme de stigmatisation encore trop souvent passée sous silence et parents pauvres des luttes contre les discriminations. Ces journées d'études de la revue Trait d'Union, que j'ai le plaisir d'introduire, se propose ainsi d'étudier la notion d'agisme et ses représentations dans la littérature, les arts et les médias. Ce concept permet essentiellement d'identifier et de dénoncer les stéréotypes et les discriminations qui affectent la vieillesse, classe d'âge qui tend à être invisibilisée et stigmatisée dans les représentations et dans les pratiques. Il est possible cependant de l'étendre à l'ensemble des discriminations fondées sur l'âge, notamment celles qui touchent la jeunesse. Il s'agira ainsi durant ces 2 jours de voir comment la littérature, les arts et les médias participent au renforcement, à la dénonciation ou à la déconstruction des stéréotypes agistes. Commençons, si vous le voulez bien, par définir le terme. Apparu pour la première fois en 1969 sous la plume de Robert Butler, le terme « agisme » désigne, je cite, « une profonde gêne chez les jeunes et les personnes d'âge moyen, une répugnance personnelle et un dégoût envers le vieillissement, la maladie et l'infirmité, ainsi que la peur de l'impuissance, de l'inutilité et de la mort. » Ce terme prend peu à peu sa place dans le langage courant, faisant émerger l'idée qu'à l'instar d'autres formes de discrimination comme le racisme ou le sexisme, il existe une ségrégation en fonction de l'âge. Je vous renvoie à ce propos à l'article de Juliette Rennes, intitulé « Conceptualiser l'agisme à partir du sexisme et du racisme, le caractère heuristique d'un cadre d'analyse commun et ses limites », paru dans la Revue française de sciences politiques en juin 2020. D'ailleurs, la pandémie de Covid-19, durant laquelle l'idée d'un confinement ciblé des personnes dites vulnérables a suscité une bronca de la part de celles-ci, ou encore le débat récurrent sur les retraites en France, ne font que réactualiser encore et toujours nombre de stéréotypes que l'on accole aux personnes âgées. Fragiles, inutiles, dépendants, ils sont avant tout vus comme un poids pour la société. Il s'agirait pourtant de clarifier tout d'abord ce que désigne la vieillesse, notion aussi vague que fluctuante. En effet, on ne vieillit pas de la même manière suivant sa classe sociale, son activité professionnelle, son parcours de vie, son environnement, etc. Chaque vieillesse est singulière et pourtant ses représentations donnent lieu à un ensemble de stéréotypes souvent négatifs. Pour quelques figures bienveillantes du grand-parent adoré ou du vieux sage dont l'expérience profite à toutes et à tous, combien de vieillardes et de vieillards méchants, aigris, menteurs, râleurs, etc. Sans même parler de l'association de la vieillesse et du vieillissement à l'idée de la perte, de la déchéance, de la maladie et ou de la dépendance. C'est précisément cela que se proposera d'explorer Axel Boué dans sa communication intitulée « Vieillesse, handicap et représentation dans les jeux vidéo ». D'ailleurs, les circonvolutions langagières pour désigner cet âge de la vie, troisième âge, quatrième âge, senior, ne sont-elles pas déjà une trace de cet agisme ? Le vocabulaire choisi n'est en effet jamais neutre et nous apprend bien des choses, tout comme les représentations convoquées, comme nous le montrera Marie Lefel qui parlera des objets de l'incontinence, des professionnels de l'aide et du soin et des représentations dans les médias. Quant aux normes du bien vieillir, pour reprendre l'expression de Michel Billet et Didier Martz dans leur ouvrage « La tyrannie du bien vieillir, vieillir et rester jeune », bien vieillir qui consiste en fait à tout faire pour rester jeune, elles sont, elles aussi, à interroger. D'ailleurs, à quel âge devient-on vieux ou vieille? Ainsi, être sexuellement actif passé 40 ans. Pour HBO aussi, le sujet fait débat, comme nous le montrera Benjamin Campion, notamment à travers les exemples de Nicole Kidman dans The Undoing et de Kate Winslet dans Mare of Easttown. L'aspect intersectionnel a une place prépondérante dans la construction de ces stéréotypes agistes. À titre d'exemple, la commission AFA Tunnel de la comédienne de 50 ans a fait les comptes. En 2020, la part des rôles, tous rôles confondus, attribués aux plus de 50 ans est de 16% pour les hommes au cinéma, ce qui est déjà ridicule, mais elle tombe à 9% pour les femmes, alors qu'aujourd'hui, en France, une personne majeure sur 4 est une femme de plus de 50 ans. L'écart entre la réalité et les représentations met particulièrement en lumière ce phénomène d'invisibilisation qui frappe cette catégorie de la population. Cette invisibilisation n'est cependant pas spécifique au grand écran, comme nous le montrera April Dupont, qui se propose d'étudier les représentations des femmes vieillissantes dans les littératures contemporaines françaises et germanophones, à travers deux exemples, la trilogie Vernon Subutex de Virginie Despentes et le roman Gier ein Unterhaltungsroman d'Elfriede Jelinek. Pourtant, quand celles-ci sortent de cette invisibilité, c'est souvent pour mieux revêtir les oripeaux de la sorcière ou de la vétula, la vieille femme en latin, comme le montre Marie Charel dans son essai « Qui a peur des vieilles ?». Marie Charel qui nous fait le plaisir de nous accorder un entretien autour de cet ouvrage, paru aux éditions Pérégrine cette année. L'horloge biologique, qui semble ne tourner que pour les femmes, et en particulier le moment de la ménopause, paraît entraîner inexorablement la décrépitude du corps féminin, qui devient alors un objet de dégoût après avoir été un objet de désir. Confère l'article de Martine Beugnet, Screening the Old, Femininity as All Age in Contemporary French Cinema, ou celui de Susan Sontag, The Double Standard of Aging. Les femmes qui voudraient pour autant échapper à cette décrépitude seraient bien mal avisées et subiraient alors l'opprobre de la société de par leur attitude jugée scandaleuse, ce que Marie Russo désigne par l'expression « scandale de l'anachronisme » dans « Aging and the Scandal of Anachronism ». Il semble décidément plus facile de vieillir quand on est un homme. C'est du moins ce que nous montrera Guillaume Genert dans « Trop vieille pour le rôle, vieillissement féminin et vieillesse masculine » dans la série 10%. Mais cette différence de perception de la vieillesse en fonction des genres est-elle cantonnée au petit écran et ne concerne-t-elle que des personnages de fiction? Si la réponse coule de source, il est très intéressant de voir comment les créatrices mettent en scène leur propre vieillesse. C'est précisément l'objet de deux communications, celle de Chen Xiaolin, qui présentera l'image auctoriale de Marguerite Duras âgée, vieille écrivaine dans la splendeur de l'âge, et celle de Laetitia Lusuardi, qui parlera, elle, de mémoire et recyclage dans Visage-Village d'Agnès Varda, portrait de la vieillesse d'une réalisatrice et de son dispositif cinématographique. Quid aussi de l'influence de cette avancée en âge sur les œuvres elles-mêmes. C'est ce que propose d'explorer Shay Loya à propos de Leeds Late Style and Ageism dans un entretien qui sera mené de main de maître à n'en pas douter par Lucia Pasini. Toujours d'un point de vue intersectionnel, axe fort de ces journées, que peut-on dire des représentations des personnes âgées LGBTQIA+ ? Sont-elles condamnées à l'invisibilisation ou aux stéréotypes? Et si oui, lesquelles? Romain Frezzato se posera la question. Vieillir queer, troisième sexe ou troisième âge, à travers l'étude de la figure du travesti sénescent dans Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet, ce lieu sans limite de José Donoso et Je tremble au matador de Pedro Lemebel. Mais, et la jeunesse alors? Est-elle elle aussi victime d'agisme? En effet, si l'agisme est associé à la vieillesse dans sa première acception, il est étendu à tous les âges, notamment dans le champ institutionnel, loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, et la jeunesse n'échappe pas, elle non plus, à certaines formes de stigmatisation. Caroline Fourest, dans son livre « Génération offensée », dresse ainsi le portrait d'une jeunesse qui serait, affirme-t-elle, fragile, narcissique et qui adopterait systématiquement une position victimaire. Cette génération snowflake, qui ne supporterait plus rien, n'est-elle pas au même titre que les boomers en proie à des représentations caricaturales? Ainsi, quand ils ne sont pas décrits comme fragiles, les jeunes seraient alors naïfs et inexpérimentés? Mais ces stéréotypes accolés à cette génération, lui sont-ils propres ou représentent-ils le dernier avatar d'un conflit générationnel sans cesse réactualisé? Qu'en est-il alors de ce rapport entre générations? Est-il toujours vécu sur le mode de l'affrontement, charriant son lot de stéréotypes d'un côté comme de l'autre? C'est ce dont nous parlera entre autres Hector Jenny dans sa communication « Jeune, coupable et libre ». Jeunisme, agisme et obsolescence dans le rap français. Le lien intergénérationnel peut aussi se faire outil politique et même instrument de propagande. C'est ainsi qu'il fut utilisé par Franco pour asseoir son idéologie, comme nous le montrera Zoé Stieb dans sa communication intitulée « La vision de la vieillesse dans la société franquiste d'après-guerre, représentation et image d'une idéologie enseigner aux enfants ». Pourtant, la jeunesse, à l'instar de la vieillesse, n'est-elle pas qu'un mot pour reprendre Pierre Bourdieu? Comment alors tenter de déconstruire ces stéréotypes agistes au sens large du terme? Et qui mieux que cette jeunesse peut les déconstruire? Emmanuel Calvisi nous présentera ainsi différentes stratégies de réhabilitation de la jeunesse par elle-même dans les journaux intimes, à travers divers exemples comme ceux d'André Gide, Raymond Queneau ou encore Simone de Beauvoir. La boucle est alors bouclée, puisque cette dernière étudiera aussi l'agisme du côté de la vieillesse, pour reprendre le titre de l'essai qu'elle consacrera au sujet quelques décennies plus tard. Cette question de l'agisme n'est pas qu'une affaire de représentation, mais bien aussi d'égalité et de traitement social. Les représentations influencent et sont le produit de discriminations concrètes vécues au quotidien, et c'est cet échange permanent qui nourrit les expériences, comme les images et les discours. Pour conclure, je voudrais tout d'abord souligner la grande qualité des propositions qui nous ont été soumises pour ces journées d'études. Que ce soit par leur objet d'étude dont la variété est remarquable, ou par les angles choisis aussi originaux qu'alléchants, ces deux jours s'annoncent décidément passionnants. Je voudrais aussi remercier l'ancienne équipe de Trait d'Union qui a été présente au début du processus de réflexion sur le sujet et tout particulièrement Héloïse Van Appelgeim qui a pris une part non négligeable. Je voudrais également remercier l'équipe actuelle pour son investissement, que ce soit pour l'organisation de ces journées d'études mais également en ce qui concerne les autres activités de Trait d'Union. Enfin, un grand merci aux écoles doctorales de la Sorbonne Nouvelle qui nous apportent à nouveau leur soutien sans lequel nous ne serions pas là. Je laisse à présent la parole à Yanan Wu qui se chargera de présenter les premières communications de cette journée regroupées sous le thème « Dire la vieillesse et l'agisme dans la littérature ». Je vous remercie de m'avoir écoutée.